Alors, c'est Laurence qui va commencer avec un texte qui s'intitule « La parole le dit, le dire la voix ». Donc, Laurence, sans micro, à toi.
Alors, à la lecture de certains témoignages d'aveux, il m'est apparu, en travaillant sur la question qui est celle de ce soir, la parole et son dire, que l'objet voix était absent de leur élaboration, donc dans ce moment particulier où un dire se noue à un dit et que ça arrête la quête du sens, pas sans effet sur le corps. Donc, le titre de ce séminaire, La parole et son dire, porte en lui ce réel du dire, puisque celui-ci s'efface, s'oublie, de structure, dit-on. Reste le dit, mais dire ainsi ne suffit pas, ça se démontre, dit Lacan. Ça pourrait se résumer, en tout cas en ce qui concerne ce travail, entre le dire et le dit, chute la voix. Vous n'entendez pas ? Voilà. Je vais essayer de parler plus fort. La psychanalyse n'a qu'un médium.
Je ne sais pas si ça marche.
La psychanalyse n'a qu'un médium, la parole du patient. C'est mieux ou pas ? Jamais Lacan ne déviera de cela. Le médium, c'est un moyen, c'est aussi l'intermédiaire entre les vivants et les morts, mais c'est surtout un registre moyen de la voix. Médium n'est donc pas n'importe quel mot, et son emploi n'est pas de hasard, puisqu'il convoque le moyen, l'intermédiaire, et bien avant les élaborations sur l'objet A, la voix. Le médium de l'analyse, c'est la parole, ceci est un invariant. Ce qui change, c'est le statut de la parole, donc au long de l'enseignement de Lacan. Au fil des séminaires, Lacan ne cesse d'élaborer et de réélaborer la doctrine du langage et de l'inconscient, un inconscient structuré comme un langage, et dont la condition d'existence est le langage. Ces élaborations ne sont pas pointillistes, si j'ose dire. Ce qui se construit de nouveau transforme la doctrine. Quand la conception de l'inconscient change, alors changent les conceptions de la parole et de l'interprétation dans leur rapport à l'inconscient, voire la direction de la cure et la place de l'analyste. Même si les conceptions précédentes ne deviennent pas automatiquement complètement caduques. Le texte qui met le mieux en tension ces conceptions anciennes et les nouvelles, c'est L'étourdi, avec la mise au premier plan du fait de dire, qu'on dise, voilà, etc., etc. Autant de fonctions et champs de la parole, Lacan pense le statut de ce qui peut se déchiffrer, de ce qui peut venir au jour comme retour du refoulé. C'est l'époque de la parole pleine et de la parole vide, nécessaires l'une à l'autre, et l'une et l'autre. Le sujet se remémore et l'analyste ponctue de façon heureuse, crie Lacan. Le sujet verbalise, c'est l'assomption par le sujet de son histoire, en tant qu'elle est constituée par la parole adressée à l'autre. Le refoulement originaire constitue une butée au retour du refoulé. 10 ans après, avec les 4 concepts, Lacan change le statut de l'inconscient. Il y a l'inconscient freudien et le nôtre. Alors, je sais, la formule n'est pas de Lacan, mais elle fait entendre la nouveauté de la chose. Dans le séminaire 11, je cite, « La réalité de l'inconscient est la réalité sexuelle. Scandale de la psychanalyse. » L'inconscient est présenté comme une discontinuité, comme ce qui achoppe. C'est un inconscient qui s'ouvre et se ferme dans un battement temporel. Dans ce séminaire, Lacan réélabore les concepts fondamentaux. L'analyse y est définie comme ce qui traite le réel par le symbolique. L'interprétation n'est pas une herméneutique, c'est donc un pas vers l'inconscient réel, ce dont vous parliez tout à l'heure. Avec la conception de l'inconscient réel et la mise en avant de la jouissance, le statut de la parole change complètement. L'étourdi est le texte qui fait la charnière entre ces deux conceptions. L'inconscient est dès lors ce dont le sujet jouit. Il jouit de la parole, du blabla, la jouissance en deux mots. La jouissance est liée au corps, non plus définie comme désir de, comme désert, pardon, de jouissance, mais comme un corps qui se jouit. Sans doute n'est-ce pas la même jouissance en cause. Là où ça parle, ça jouit. Lacan parle même de la psychanalyse comme d'une pratique de bavardage, de parlotte. Tout terme qui dévalorise la parole, qui n'en reste pas moins le médium de la cure. L'être humain, humus du langage, est apparolé. Et l'appareil du langage, à l'appareil du langage, et en 75, Lacan ramène la parole au premier plan. Mais cette parole n'est plus seulement langage, elle est aussi prise dans la langue, en un seul mot, ce qui inclut le corps. Le parlêtre, c'est l'individu plus son corps. La langue ajoute à la parole la dimension de la jouissance, celle qui traverse le corps aussi bien, puisque l'homme parle avec son corps. Le corps vivant, substance jouissante. C'est aussi le corps du stade du miroir, mais avec la discordance en plus, comme ce qui manque à l'image. Discordance que Lacan nommera notre patou. La discordance nomme le rapport du sujet au réel. Je signale que discordance, c'est déjà un mot qu'on trouve dans le stade du miroir, dans ce texte-là. Dans les élaborations de la fin de son enseignement, Lacan replace le corps au premier plan. Et même s'il relève toujours de l'imaginaire, s'y ajoute la dimension de réel. C'est un corps qui se jouit, un corps vivant, substance jouissante, traversée par la langue, en un seul mot, maternelle, qui laisse la trace d'une jouissance indélébile et non signifiante. C'est le langage qui nous décerne ce corps, de si incorporé, et dont les zones érogènes sont découpées par la pulsion, définie plus tard comme l'écho dans le corps qu'il y a un dire, mais ce dire, pour qu'il résonne, qu'il consonne, il faut que le corps y soit sensible. Gardons en mémoire ces deux signifiants, résonne et consonne. Il y a un effet du dire et de la parole sur le corps, ce que l'on savait déjà, bien sûr, effet de la parole sur les symptômes dans l'hystérie, par exemple. On peut faire l'hypothèse d'un dire originel qui s'est incarné, qui a percuté le corps, sans doute porté par la voix de la mère, par celle qui a sa place. Pas étonnant donc que le dire de la fin de la cure ait lui aussi des conséquences sur le corps, puisque l'inconscient, les signifiants et le corps se joignent du fait de la pulsion autour des zones érogènes et se nouent à la présence du vivant. Si en 53, la parole pleine se définissait par l'identité à ce dont elle parle, c'est dans fonction et champ, en 77, la parole pleine est une parole pleine de sens. Contrairement au dire, elle n'arrête pas la quête du sens. Au contraire, puisque le sujet jouit du blabla. Quand la parole devient dire, ce dire arrête la quête du sens, non pas sur un « ça suffit », mais sur la rencontre d'un impossible. En fait, il y en a trois, le sexe, le sens et la signification, on trouve ça dans l'étourdi, c'est-à-dire la dimension de ce qui ne se guérit pas, la dimension symptomatique. Il y a donc le dire et le dit, et s'il n'y a pas de dit sans parole, il peut, paradoxe suprême, y avoir un dire sans parole. Il se peut même que ce soit l'essence du dire. Se dire sans parole, c'est l'interprétation silencieuse de l'analyste. Alors, la parole est son dire. Bien sûr, on peut parler pour ne rien dire, c'est même le plus fréquent, mais l'exercice de parole peut déboucher sur un dire. Le dire est un acte, et si on prend la définition de l'acte au sérieux, celui-ci se mesure à ses conséquences. Mais on ne peut dire, c'est le cas de le dire, l'acte lui-même. Et c'est pour cela aussi que le dire s'oublie. Dans le moment de conclure, Lacan dit précisément que dire est autre chose que parler. À partir de la parole et son dire, ne peut-on penser un nouage entre le dire, le dit et le corps, sans oublier le poids de la voix? Ça, c'est une question pour moi. Un nouage, même éphémère, qui se dénouerait aussitôt pour se renouer autrement, le temps de l'énonciation passée. Dire est un acte, il fait événement. Il n'y a d'événement que d'un dire, il existe ou pas. Il est contingent, évanescent. Dire est donc bien autre chose que parler. Du dire, il n'est pas question de ce qu'il dit, ni de son rapport à la vérité ou à la fausseté. Il n'y a de rapport du dit au dire que le temps de l'énonciation. Il y a le dire et le dit, ce qui est cohérent avec un symbolique indépendant du réel et de l'imaginaire dans le nœud borroméen. Le symbolique ne fait plus chaîne, c'est une suite de S1 qui ne s'articule plus et qui ne produisent plus de signification. Le dire ne fait pas chaîne, il arrête le glissement du sens. Ce sont des écrits de Patricia Dahan. Il épuise les dits, il fait coupure dont les effets de séparation se font sentir pour le sujet, dans son corps et dans le transfert. C'est ce dont on fait l'expérience, donc elles ont témoigné de cette expérience, Patricia Dahan et Nadine Naitali Cordova, dans leur témoignage. Le silence peut être aussi un dire sans mots, la portée d'un dire silencieux. Lacan explique l'effet du sens du dire silencieux, celui de l'interprétation de l'analyste, comme un effet de sens réel. Oxymore magnifique, sens et réel ne faisant pas bon ménage, mais dont on avait déjà une petite idée de la formule, avec la formule plutôt, traiter le réel par le symbolique. Mais alors, on peut penser que ce dire qui n'est supporté par aucune parole se supporte de la voix comme objet A. La voix comme objet A, elle choisit au moment où le sujet se constitue comme sujet parlant. La voix n'est pas un objet sonore, on s'en aperçoit bien ici, sauf dans la psychose. Bernard Nominet a écrit, en citant le Lacan du séminaire 10, « L'interprétation analytique se fonde sur cet objet en tant qu'il véhicule l'altérité de ce qui se dit. » Reprenant la formule tardive de Lacan sur le caractère oraculaire de l'interprétation, Jean-Jacques Gorog précise que l'analyste qui interprète est aussi une voix. La voix, à la fois chue et incorporée par le sujet, devient inaudible. Résonne alors comme un écho lointain dans le corps, une séparation radicale du sujet d'avec lui-même et d'avec l'autre. Où l'on reconnaît aussi la petite musique de la formule de Lacan, l'écho dans le corps. L'autre est décomplété de la voix, même si le projet du surmoi est de réinstaurer cette grosse voix qui oblige le sujet. On voit bien comment l'autre se décomplète de la voix avec l'histoire biblique du don des 10 paroles aux Hébreux. Dans le désert, Moïse dit aux Hébreux qu'ils vont entendre la voix de Dieu. Et qu'entendent-ils ? Un tumulte, un orage, le son du chauffard, d'un qui ne reprend pas son souffle. Cette voix est inaudible, tonitruante, et détaché de la phonation. Le chauffard, dont la voix est en puissance d'être séparée, écrit Lacan. C'est aussi bien ce qu'écrit Raphaël Drail. Le désert va se faire non plus étendue de la solitude, mais espace de la parole, ou plus exactement espace de la voix, espace de la phonation, préparant l'espace de la parole à venir. L'espace de la parole est précédé par celui de la voix qui s'éteint pour laisser place aux 10 paroles, ce qui est la traduction de 10 commandements. La parole émerge de la séparation d'avec la voix, c'est bien la logique de l'objet A. Les AE nommés témoignent d'un dit particulier qui a un poids de réel. Le dire s'efface derrière le poids du dit, du fait que la voix qui a porté le dire se sépare. En tout cas, c'est l'hypothèse que je propose. Néanmoins, la parole était devenue sonore. Il a bien fallu faire sonner la parole pour qu'elle soit entendue, selon l'heureuse expression de Nicolas Bouchaud. Alors, pour illustrer ce